Il est 9h32 minutes. À ce moment-ci, notre invité, en temps normal, s'il n'y avait pas de pandémie, ne serait pas au Québec. Il serait probablement quelque part en train de faire des tournages à Tokyo et nous faire voir l'envers du décor, bien souvent des Olympiques. Il s'agit de Jean-René Dufort, animateur de l'émission Infoman depuis octobre 2000. Et ça se poursuit, cette belle aventure d'Infoman. Bonjour Jean-René.
Bonjour, ça va bien? C'est vrai, je serai à Tokyo.
Ben oui. Y as-tu pensé à ça? Est-ce que ça te fait un petit pincement au cœur?
J'y pense chaque jour. Non, je dirais que c'est un peu mélangé. Autant je suis assez bien relax présentement, autant c'est sûr que Tokyo, c'est un terrain de jeu fantastique, là, ouais. Mais avec les bulles ou la manière COVID que c'est organisé, c'est sûr que c'était impossible pour nous d'aller là. On y allait là, mais en voyant comment. J'aurais pas pu fonctionner là-dedans. Nous, notre principe, c'est de se promener partout, d'aller voir les gens, de justement de percer ces bulles-là. C'était un peu trop rigide pour nous.
Ouais. Mais aimes-tu ça faire ça, ces trucs-là? Parce que c'est des tournages presque quotidiens là, que tu dois faire pendant une période assez prolongée. On parle d'une dizaine de jours. Là.
Écoute, c'est un peu mes Olympiques à moi quand je vais aux Olympiques parce que c'est un reportage par jour. Ouais. C'est vraiment que c'est compliqué à faire ça parce que là, faut que tu t'organises. Et ce que je le fais, je vais te dire un secret, je le fais toujours pour me prouver que je suis capable tout seul de faire un reportage parce que à Infoman, même dans le temps, à la fin du monde à 7h, tu sais, on a des recherchistes, ouais. Ils peuvent nous booker, mais d'être parachutant quelque part avec un téléphone puis un micro puis ça prend un topo. Ben, j'aime beaucoup ça aller aux Olympiques justement pour ça, parce que ça me prouve que si j'étais tout seul, je serais encore capable. Sans le confort d'une vraie mission et d'une équipe, là, je suis encore capable de faire un topo.
OK, parce que c'est exactement, parce que t'as pas tout l'assistant, mais tu trouves comment les idées en te promenant dans la ville et puis tu vois des trucs où il y a des gens qui te rappellent, tu devrais faire un reportage là-dessus, etc. Tu trouves les idées comment?
Ben, je dis toujours que je me prépare peut-être, les Olympiques, pour moi, ça représente 15-16 sujets. Donc, j'en prépare 5 qui fonctionneront pas, je le sais, mais je les prépare pareil pour ma sécurité.
Ouais.
Puis, t'arrives là, puis tout ce que tu pensais qui arrive, arrive pas, et tout ce que tu pensais qui arrive pas, arrive. Et là, tu te laisses aller. Moi, je suis très happy go lucky dans mes sujets de reportage, là. Et d'ailleurs, je fais souvent peu de recherches pour garder cette espèce de
spontanéité.
De côté, ah, qu'est-ce que c'est ça? Comment ça marche? Hein? C'est quoi ça? Je me dis, ce qui m'excite, moi, va sûrement exciter les téléspectateurs. Fait que je me laisse aller comme ça. Puis dans les compétitions, c'est sûr que rencontrer les athlètes, c'est vraiment... moi, j'ai une admiration sans borne pour les athlètes olympiques. Là, je trouve que c'est des beaux fous. J'ai traite de fou parce que faut être fou pour faire ça, là, tu sais, passer 4 ans de ta vie à lancer un javelot pour devenir celui qui lance un bout de bois le plus loin possible. Faut être fou, mais en même temps, d'un autre côté, je trouve que c'est une pureté qui se perd tellement. T'sais, la personne, elle veut simplement se dépasser elle-même dans un sport.
Ouais.
Cette pureté-là, c'est moi qui lance le bâton plus loin. j'ai travaillé 4 ans pour ça. Je trouve ça très émouvant.
Oui, c'est vrai. Parce qu'après ça, ça peut servir à quoi dans la vie de tous les jours de lancer un javelot à, je sais pas, 150 mètres? Des fois, on peut se poser la question. Mais
ben, ça sert à te dépasser.
À te dépasser toi-même.
Ça sert il y en a plein là-dedans. Je trouve que c'est une abnégation. On connaît les plus. C'est André Degrasse. Je pense pas qu'il y a des problèmes à payer son catégorie parce qu'il y a des commanditaires, des choses comme ça. Mais il y en a combien d'athlètes qui font un sport assez obscur, qui dépendent beaucoup de l'aide gouvernementale et qui sont pas, ils auront jamais de commanditaire. Lancer du poids, t'auras pas de commanditaire.
Non, c'est assez difficile, effectivement, j'imagine, le recrutement. Le ping-pong également, là. Puis au bar, en fin de soirée, ça doit moins poigner quand t'es athlète de ping-pong, mais il reste que...
Ben, j'ai vu hier, il y a des compétitions de ping-pong, puis en Asie, ça doit fonctionner pas mal. Je pense qu'il y a moyen de tu sais, comme le volleyball, on le réalise pas, mais il y a plusieurs pays où c'est un sport bien hot, le volleyball. Il y a des ligues professionnelles. de volleyball. Donc, c'est ping-pong, je dirais pas non. J'ai plus que lancer du poids.
Bon, mais c'est vrai qu'on on fera pas l'entrevue au complet ces Olympiques où tu n'es pas, mais quand on regarde la performance des femmes qui ont toutes les médailles sans exception jusqu'à maintenant, dont 3 d'or, là, c'est une performance extraordinaire pour le Canada. Et c'est les femmes qui sont les moins commanditées, justement. C'est elles qui ont le plus de mal à aller chercher des commandites olympiques. C'est quand même assez paradoxal. Hein?
Ben ça, c'est souvent un problème. Puis il faut que ça arrête. Je pense qu'une performance, peu importe qui la porte, quand elle est exceptionnelle tout court. Ouais. Moi, je vois pas la différence entre une porte-parole femme et une porte-parole homme, tant qu'elle inspire et que tu sais, y a pas, je trouve qu'il faut qu'on arrête. C'est la même chose. Moi, je suis un passionné de tennis. Et c'est la même chose au tennis. Souvent, les bourses sont plus faibles chez les femmes que chez les hommes. Puis il faut que ça arrête. Moi, j'ai vu de très bons matchs de tennis féminin. D'ailleurs, il y a des sports que je trouve ça un peu. On parlait du ping-pong. Ping-pong, c'est-tu vraiment important que ça soit
un gars et une fille, oui, c'est ça, exact.
Est-ce que les deux pourraient pas s'affronter? Il y a une si grande différence que ça. Il pourrait y avoir quelques sports mixtes. Ouais. Je pense qu'il n'y aurait pas de trouble là.
Ouais. Hey, on parle de 21e saison pour Infoman. Je sais que je pense qu'on en avait parlé l'année passée aussi. On s'est parlé, entre autres, de ton émission Le Gros Laboratoire l'an passé. Mais quand tu as parti ça en 2000, là, est-ce que tu t'attendais à ce que ça dure aussi longtemps ou tu partais pour quelques années et tu dis, parce que souvent, tu sais, les émissions, ça fait un temps puis après ça, on s'en va, là?
Écoute, j'arrivais de la fin du monde, il était à 7 heures. J'étais un peu perdu, très innocent. Je pensais même pas que ça allait durer 6 mois. Et d'ailleurs, ça a commencé à Radio-Canada dans le temps. Il y a eu quelques frictions. Ça a été difficile la première année, mais bizarrement tout s'est mis en place. Puis, mais non, je pensais jamais dans mes rêves les plus fous. De toute façon, j'étais incapable de penser 20 ans d'avance ouais. À cette époque-là. On y allait vraiment comme ça, mais non, on pensait jamais que ça durerait 20 ans. D'ailleurs, c'est ça qui est comique. Je veux dire, moi, j'étais en 20 ans. On n'a pas eu le temps. Il y a plein de choses qu'on n'avait pas pensé au début parce que ça... Je sais pas moi, ça c'est juste de d'acheter le pas d'acheter le logo, mais de trademark du logo ouais. Du nom ou de on n'avait jamais pensé à ça, on dit ça va durer 6 mois. Parce que vraiment, on arrivait de la fin du monde à 7 heures, c'est la moitié de l'équipe. On partait ça, on savait pas trop où on s'en allait. Je dirais, j'avais bien de la misère à expliquer ce qu'il allait avoir dans l'émission. Je disais, ben, ça va être pas mal une demi-heure de ce que je fais à la fin du monde est à 7 heures, mais au lieu d'être 5 minutes par jour, tu vas l'avoir en condensé d'une demi-heure. Ça va jouer autour de ça. Et je me rappelle au début, la première émission qu'on avait présentée, on avait fait une entrevue avec Pierre Foglia, qui donne jamais d'entrevue.
Ouais.
Et ça avait impressionné la galerie, semble-t-il. Puis ça avait... c'est impossible de prédire que ça allait faire ça.
Ouais. Et t'as eu à te battre, j'imagine, un peu avec... Quand t'es la salle des nouvelles, là, avec les journalistes très sérieux, puis t'ont vu arriver, ils ont dû trouver par bout que tu marchais dans leur plate-bande, puis ça a dû faire des frictions, non?
Ça, c'est certain. J'ai déjà vu un patron de Radio-Canada littéralement monter les deux genoux sur la table en disant que j'avais pas le droit de faire ça.
Ah oui?
Patron de la salle des nouvelles, oui, que je ne nommerai pas, qui est à la retraite depuis longtemps. Mais c'est sûr qu'au début, c'était difficile. Mais au fil des ans, on s'est vraiment, comment je pourrais dire, complété et soudé. Moi, j'ai toujours, je suis le module clown des journalistes. Mais en même temps, tu sais, depuis quelques années, j'anime les prix de la FPJQ, les prix du jugement qu'on donne aux journalistes, puis je les taquine toujours en
disant... C'est une douce revanche, quand même?
Ben, non. Moi, j'ai jamais vraiment... C'est pas un débat qui m'intéressait tant que ça. C'est plus un débat qui s'est fait un peu malgré moi. Mais il disait toujours que à la blague, je suis comme devenu un peu le sérieux de la gang parce que des fois, il y a des affaires d'information spectacle que je vois aux nouvelles, peu importe le poste, puis je me dis, ouais, ça, je suis pas sûr que moi, j'aurais fait ça.
Okay.
Donc, je dirais que l'information a évolué. L'information, comment je peux dire, a rajouté un petit peu plus de spectacle. depuis que mettons depuis le début de mon existence. Ça me fait beaucoup rire.
Ouais. Quelle portion de ce que tu fais, parce que tu sais, bon, je suis bien placé pour t'en parler parce que je me vois souvent dans ton dans le début.
Ta citation sur Patoff était merveille de l'année. J'ai adoré ça. Tu vois ça là, c'est pour ça que je fais mon travail. C'est juste les mots, mais juste l'intonation là. Ouais. Dans le sens, on va-tu utiliser des souliers de Patoff, dans le sens de, il y avait un éditorial vraiment savoureux là-dedans.
Ben tu vois, c'est exactement ce que j'allais te poser comme question. Quel bout est éditorial dans ce que tu fais? Parce que tu as le choix d'aborder les angles, même dans le montage, tu peux faire des trucs pour mettre certains éléments en valeur. Puis quel bout est éditorial dans ta démarche?
Ben c'est difficile de dire un pourcentage ou une quantité. Nous, on y va avec le fil de la semaine. Quand le fil de la semaine, c'est, je sais pas moi, le message du gouvernement est plus ou moins clair, on veut bien obéir, là, mais un mètre, deux mètres sont à mesure. Si c'est à 8, tu soustrais 4, puis là tu peux pas, puis si tu connais 2 bulles, 4 bulles, ça devient compliqué. Fait que là, on essaie de rapporter toutes les petites affaires qu'on a vues dans la semaine qui démontrent ça, puis on en fait un montage après ça. Je dirais que ça varie d'une semaine à l'autre. Ce qui est intéressant, c'est que nous, on est un peu, comme on est en retrait du monde journalistique sérieux un peu, on observe le politicien, mais des fois, on observe aussi les journalistes qui questionnent les politiciens. Ouais. Je dirais que les journalistes aiment des fois un peu moins ça, mais on y va toujours en essayant de comme moi, je suis un ancien scientifique, fait qu'au début de la crise, de la pandémie, ben il y avait des bouts où j'étais du bord des journalistes. Ouais. Je disais, ben voyons, M. Arruda, il faut nous dire ça. Puis d'un autre côté, il y a des bouts où j'étais debout devant ma TV, il y avait une conférence de presse, puis je vous criais aux journalistes, il peut pas vous le dire, le chiffre, ça se peut pas, arrêtez de demander un chiffre, il y en a pas. Fait que c'était espèce de débit mix-là que j'aime bien.
Mais je pense que le travail des journalistes n'a pas été très, très bien compris aussi de la part du grand public. Je peux t'en parler, là, parce que les gens n'étaient pas habitués de voir des conférences de presse de façon prolongée, parce qu'il n'y a personne qui écoute à une conférence de presse de François Legault en temps normal, si c'est pas pour la COVID, là, je veux dire, où il faut être vraiment crinqué puis aimer la politique, là, parce qu'il y a des bouts qui sont plates en sifflette. Alors, les journalistes ont un travail à faire. Des fois, on pose des questions, c'est parce qu'on a un reportage à faire aussi, puis les gens comprennent pas toujours ça, tu sais.
Ça, tu vois, j'aurais pu gager 100$ que ça aurait été ta réponse. Parce que ce qui me fait rire aussi un peu, et je le dis avec affection, c'est que les journalistes sont très, très, très susceptibles quand on, pas critique, mais quand on taquine leur... des fois, faut que vous soyez capable d'avouer que votre question est juste niaiseuse. C'est possible. 99% du temps, il y a dans la conférence de presse, mais il y a des fois, quand ça fait 50 fois que vous posez la même question puis il vous répond pas, la 51e fois, il répondra pas plus.
Ça dépend.
Puis en science, moi, j'ai en tout cas, il y avait quelques questions où, en tout cas, il y avait... C'est un domaine très pointu, mais je trouve que les journalistes ont fait un job incroyable cette année. On a clarifié plein de choses grâce à ces conférences de presse-là et grâce à votre travail. Mais il y a aussi des fois où, tu sais, moi, je trouvais ça très drôle. J'avais fait un montage où tu avais la moitié des journalistes qui disaient « Pourquoi vous déconfinez pas plus vite? » Puis l'autre moitié qui disait « Pourquoi vous déconfinez trop vite? » Ouais. Je disais « Parlez-vous! » On arrivait avec une question, mais c'était drôle de le balancer comme ça selon l'opinion. Mais c'est sûr que c'est normal dans une pandémie comme ça d'arriver à ces situations-là, mais je ne minimise en rien le travail. Je suis votre premier fan. Ouais. Les journalistes du sérieux. Ouais, et quand vous
c'est normal, on est à matière première.
Ben oui! Mais les politiciens l'acceptent très bien, ça. Peut-être que les journalistes pourraient l'accepter un petit peu plus.
OK. D'accord. On va essayer de faire notre bout.
Mais c'est vrai que dans ces conférences de presse-là, un peu comme quand je parlais avec Sonia Lebel, qui était avocate à la commission Charbonneau, c'est des personnes qui sont pas, vous étiez pas habitués de faire partie du show. parce que la conférence de presse était diffusée dans son entièreté.
Ouais.
Et comme les avocats, des fois, ont des trucs pour faire dans les interrogatoires qui sont peut-être redondants, qui passent moins bien à la télé.
Ouais. Mais je te donnerai l'exemple suivant. C'est que moi, je me suis fait reprocher d'être trop dur avec M. Legault dans mes questions, alors que j'ai été extrêmement poli et gentil avec M. Legault. Lui-même le reconnaît et dit « M. Lacroix, on vous reconnaît plus. » Parce qu'en temps normal, ça brasse plus que ça, les conférences de presse. Mais là, comme on était diffusé avec 3 millions d'auditeurs, ben on faisait un petit peu plus attention. Mais en temps normal, les journalistes ont pas mal plus sévères avec les politiciens. Puis là, on se faisait reprocher ça. C'est d'où, en fait, le commentaire où je disais « Les gens sont pas habitués. » Ils étaient pas habitués à cette réalité-là.
Non, ça c'est vrai, puis moi, je vous ai jamais trouvé trop rough les journalistes. Les questions, au contraire, étaient très pertinentes, mais le ton était là. Puis c'est vrai que c'est pas on est loin d'une entrevue après match au hockey.
Voilà, exactement. 21 ans, est-ce qu'il y a l'envie de se renouveler, de changer des choses, ou si on dit on change pas une formule gagnante?
Ben moi, je dis toujours que Infoman, c'est comme une chaudière vide. On peut faire ce qu'on veut à chaque semaine. On suit l'actualité. Donc, ce qui arrive va renouveler le genre. Là. Le défi pour nous, c'est peut-être de trouver des manières différentes de traiter des sujets qui sont redondants. Là. Mais en même temps, je trouve que c'est un avantage. Quand ça fait 20 ans qu'on accumule des archives, ben le reportage, la prochaine fois qu'on va lancer une étude pour, je sais pas moi, déterminer qu'est-ce qu'on pourrait bien faire avec le vieux port de Montréal, ben moi je vais sortir toutes les fois où on a fait cette conférence de presse là. Donc ça on a au fil du
ça
temps
ajoute, ouais.
on accumule une certaine spécificité que les autres ont pas. Nous, on a 20 ans d'expérience. Et moi, j'ai peinturé un autobus de campagne pour Mario Dubon, un autobus scolaire à gouache avec des enfants dans le temps. Fait que, tu sais, il y a la prochaine élection, parce qu'il va en avoir une dans pas longtemps, ça a l'air. Les prochaines élections, parce que les élections municipales aussi qui s'en viennent, ben, c'est sûr qu'on arrive avec une expérience que personne n'a, là. On a 20 ans d'archives dans nos ordinateurs. Là.
Ouais. J'aimerais ça qu'on parle aussi de ton autre émission que tu animes. Je pense que les tournages sont en cours, sur le point de se terminer. Là, ça s'appelle le Gros Laboratoire. Ça fait appel un peu à ton passé scientifique jusqu'à un certain point.
Oui, ça c'est génial. Ça fait 3 saisons. On la tourne à l'Université Bishop. On revient de là. On séquestre 100 cobayes pendant 8 jours et on leur fait subir, je sais pas, une quarantaine d'expériences.
Ouais.
Puis après ça, on calcule les résultats, puis on voit qu'est-ce que ça a donné. Cette année, il y en a des très comiques. Ça peut aller de la douce expérience à si on te sert un gâteau. Est-ce que si on te sert juste le gâteau et on te demande « y es-tu bon? », tu vas le trouver moins bon ou meilleur que si on te sert le même maudit gâteau, mais le pâtissier te l'a fait devant toi.
Ah, OK.
Est-ce qu'il est meilleur? Fait que,
D'où la fameuse... quand on fait du pain à maison, là, d'abord, il est moins bon que celui qui est fait par le boulanger parce qu'on est moins bon que le boulanger professionnel, mais on a toujours l'impression qu'il goûte meilleur.
Oui, ben il y a des études qui disent que dans les restaurants, quand la cuisine est ouverte, les gens apprécient plus le repas parce qu'ils ont vu les cuisiniers faire leur bouffe. Ils ont vu leur bouffe cheminer.
Ouais.
Fait qu'on s'était basé un peu là-dessus, mais ça va. On a pitché des cobayes du 5e étage pour voir si le toucher donnait plus confiance. On a.
Comment tu dis ça?
On voulait savoir si. Il paraît que quand tu touches quelqu'un sur l'épaule, ça lui donne confiance.
Okay.
En disant l'espèce de toucher, tu vas y aller, tu vas voir. Fait que on s'est dit bon, faudrait une expérience qui démontre ça, ou tu sais, qu'on le teste. Qu'on a pris des gens, on les a pitchés du 5e étage, puis on leur disait c'est toi qui décides. La moitié des cobayes, on les touchait. La moitié des cobayes, on les touchait pas. Puis là, on a calculé, je suis en train de le calculer, là, de voir est-ce que ceux qui se sont fait toucher, ils vont avoir plus de courage à se lancer. Mais ce qui était très drôle, c'est que la pandémie a amené le fait qu'on n'est pas habitué de se faire toucher. Fait qu'il y en a beaucoup qui sursautaient quand on mettait une main sur leurs épaules. Donc, il y a la notion pandémie aussi qui est intéressante dans cette émission-là.
Malheureusement, ils sont plus là pour en témoigner parce qu'ils sont tombés du 5e étage, mais...
On n'a perdu aucun cobaye sur les
fans. Ah non?
On les, comme on dit dans la publicité, on les a tous ramenés chez eux, sauf une cuillerée à soupe.
Alors, pourquoi vous tournez ça à Bishop? Parce que c'est la collaboration que vous avez avec l'université là-bas, c'est ça?
Ben moi, j'ai étudié à l'Université de Sherbrooke. Fait que je connais bien l'Université Bishop parce que je me sauvais là-bas pour étudier en paix à l'abri de mes chums qui voulaient faire le party.
Ouais.
Donc, c'est un endroit, ça a l'air d'Harry Potter. Bishop, c'est comme Harvard en Estrie. Et dans l'émission, c'est un concept hollandais, l'endroit est un endroit, est un personnage de l'émission. Okay. Donc, notre gros laboratoire, c'est l'Université Bishop. Et en plus, quand tu séquestres 100 personnes, y compris nous, moi je suis allé passer 8 jours avec eux là, ça prend des dortoirs, ça prend une cafétéria, ça prend des locaux. On a fait des tests dans les piscines, ça prend un édifice de 5 étages, ça prend des salles de cours.
Ouais.
Tout est là, concentré. Et en plus, c'est super. Donc, ça, à l'émission, là, ça donne un look. T'sais, on est à l'Université Bishop, là, ça paraît.
Bon. Est-ce que tu travailles avec une grosse équipe? Parce que toi, habituellement, tu voyages léger, là. T'es toujours avec Éric, ton caméraman, normalement, infoman. C'est
oui,
encore lui qui est
Éric
Saint-Hilaire.
Éric. Oui. Oui, avec ses rires éditoriaux.
Oui, avec qui j'ai travaillé il y a 30 ans. À l'époque où il était dans Charlevoix, imagine.
Oui, oui, à la télévision communautaire de Charlevoix. Il
ouais.
est un fier représentant. Non, on est, bien, quand on voyage, on est vraiment une petite équipe. C'est-à-dire moi et lui. Le gros laboratoire, c'est autrement plus gros. Là, c'est vraiment une grosse équipe pendant ouais. une semaine. Là, c'est vraiment, ça, c'est le plus gros tournage que j'ai jamais fait. À Infoman, je dirais que ça reste artisanal. Là. On est sur le terrain. Il y a moi, Éric, il y a Chantal Lamarre, MC Gilles qui part avec sa caméra. Il y a trois recherchistes, un monteur. Des fois, le chien est en montage avec nous, nous donne des idées. T'sais, il n'y a pas grand monde de plus que ça. Un producteur, directeur de prod. On est peut-être maximum 10.
Puis ça, c'est voulu. Vous le voulez comme ça parce que c'est plus facile peut-être de travailler de cette façon-là?
Ben c'est voulu. Moi, j'ai été élevé à la fin du monde est à 7 heures où quand tu voulais présenter un graphique à l'écran, tu prenais une feuille de Kayano, tu dessinais le graphique, puis tu écrivais le graphique, puis tu le filmais, puis c'est ça. Puis c'est comme quelque chose qui est resté. C'est près de ma personnalité, je dirais.
Ouais.
Et c'est quelque chose qu'on aime beaucoup, ça, de pas trop compliquer la machine. Parce que je trouve qu'en télé, rapidement, ça c'est peut-être, certains diront que c'est un de mes mauvais côtés. Souvent on me dit, t'as pas étudié là-dedans, ça paraît. Mais je trouve que ça devient lourd rapidement. Puis je trouve que la lourdeur, c'est l'ennemi juré de la spontanéité quand t'es en conférence de presse. Quand
ouais.
Il faut que ça reste mobile, puis il faut que tu sois capable de t'adapter rapidement. Il y a pas une petite équipe comme ça, ça permet de faire ça.
Bon, on va te laisser aller parce que d'abord, l'émission est presque finie. Et deuxièmement, on me dit que tu as des marches à couler aujourd'hui. Alors,
Oui, j'ai du béton à couler aujourd'hui. J'ai pas terminé.
Tu fais ça de tes blanches mains ou si tu fais venir.
Oui. Là, ça, c'est un autre mythe. Je suis quand même capable de faire quelques affaires avec mes mains autrement que lors de portage.
Oui, mais tu as la carrure d'un gars qui travaille dans la construction aussi.
Ben oui, moi, c'est
bien connu.
Moi, au lieu de lever des 2x4, je lève des 2x3.
Il faut prendre les travaux à sa
c'est
mesure.
Ça. Exactement.
Mais Jean-René Dufort, ça a été un plaisir de te recevoir. Et puis, bonne continuation dans cette 21e saison d'Infoman. Merci beaucoup d'avoir été avec nous.
Et gêne-toi pas dans la conférence de presse pour dire d'autres choses comiques. Là.
OK, je vais essayer. Salut. Jean-René Dufort, animateur de l'émission Infoman. C'est tout pour nous. Merci beaucoup d'avoir été là, mesdames et messieurs. On se retrouve lundi à compter de 5h30. Et puis, au revoir et reposez-vous bien. Salut bien.